Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline.
Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on discute de l'avenir de la langue française au Québec avec la nouvelle porte-parole libérale dans ce domaine, Madoua Nika Cadet. En 2017, elle écrivait dans Le Devoir « Cessons de nous alarmer quant aux chiffres sur la langue maternelle et d'usage à la maison des Québécois ». Est-ce toujours sa position? Et en balado dans les actualités de l'histoire, Dave Noël décortique le discours d'ouverture de François Legault sous l'angle des références historiques présentes, mais surtout absente. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau-Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ça y est, le projet de loi pour rendre le serment au roi facultatif, il est déposé.
Et oui, donc, disons que le serment au roi...
Et dis-le, il y a eu une primeur hier à la haut sur la colline.
Oui, sur la façon de faire.
Oui.
Antoine était bien pistonné.
Quand c'est constitutionnel, oui. C'est ici que ça se passe, Rémi.
Le canal constitutionnel. Alors... Écoute, donc ça veut dire que le serment au roi Charles III, ben, ça aurait été de courte durée parce que on a toutes les raisons de croire que d'ici vendredi sera adopté ce projet de loi qui a été déposé parce qu'il est extrêmement court, donc deux petits articles dans le fond à ce projet de loi-là. Et,
comme je disais hier, on va modifier le Google Doc de la Constitution du Québec dans le texte constitutionnel de 1867.
Oui.
Pour dire... Nous, notre serment, c'est pas... Le serment au roi est facultatif.
C'est ça. On profite de la loi de la Constitution de 82 pour aller apporter un changement dans la portion qui touche le Québec, dans le fond, de la loi constitutionnelle. Et de cette façon-là, Jean-François Roberge a été questionné, d'ailleurs, en point de presse après, puis il disait que c'était... la façon qui avait été vraiment établie par les juristes et qui faisait en sorte que c'était solide. Et avec ça, donc, on n'a pas peur de se tromper ou de faire face à des contestations ou de perdre, en fait, des contestations. Plutôt que l'autre voie qui était celle proposée, dans le fond, ou avancée par Québec solidaire, qui était d'aller changer la loi de l'Assemblée nationale. Donc on va vraiment changer là où ça fait mal, si je peux ici m'exprimer, dans celle de 1867. Et ça fait en sorte que dorénavant, le seul serment qui sera obligatoire, ben, c'est celui qui est prêté au peuple québécois et non aux représentants de la monarchie.
Il y avait une autre voie, ça aurait été la voie de la motion. Ça, en disant qu'avec la motion, on ne fait que toucher à la régie interne de l'Assemblée nationale, puis selon certains juristes comme Maxime Laporte, Henri Brun et compagnie, ça aurait été la manière de protéger le plus possible de contestations devant les tribunaux parce que habituellement on reconnaît par la séparation des pouvoirs la capacité de l'Assemblée nationale de déterminer sa régie interne. Ouais. Donc, mais ça n'a pas été choisi, au contraire, on est allé avec une modification constitutionnel unilatéral.
Oui, ça semblait même, je dirais, contesté par les juristes de l'Assemblée nationale, parce que si moi, Jeanine Barrette disait non,
ça
pas,
prend une loi.
C'est ça, exactement, ça prend une modification de la loi ou une loi. Bon. Ben voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est est-ce que, parce que c'est tellement court, on peut adopter ça très rapidement. Les partis d'opposition sont d'accord, les libéraux l'ont dit, ils n'exigent plus de consultation. Mais je me demande juste, est-ce qu'on va.
Contrairement au printemps dernier.
Oui, exactement. Mais là, est-ce qu'on va vraiment faire rapidement et, par exemple, demain, ça pourrait être demain, l'étude article par article, faire ça rapidement, puis jeudi, voter, par exemple, en chambre, le vote final pour l'adoption de la loi. Et les péquistes pourraient être là vendredi à la dernière journée au Salon Bleu, exemple. Ah.
Mais est-ce pourrait, que... Enfin, Paul Saint-Pierre Plamondon pourrait voir le Salon Bleu
mais je me
de l'intérieur.
Juste quand même.
Mais t'es pas sûr?
Mais c'est juste que je me demande si... là, c'est peut-être machiavélique, mais peut-être que les partis vont peut-être vouloir voter, faire le vote final vendredi pour pouvoir dire, voilà, c'est adopté. Mais pour pas laisser la chance aux trois péquistes de rentrer au Salon Bleu
triomphalement.
Le nez en l'air.
Ah oui.
Tu sais, apparaître comme les grands gagnants là, juste avant de partir.
De cette mini-session.
Ouais. J'ai comme un doute.
J'ai comme l'impression que t'as raison.
Ouais.
Est-ce qu'on parie là-dessus?
Ouais, c'est ça.
OK.
Alors, je sais pas, c'est pas de l'info privilégiée, juste un sentiment que je pense que chez les caquistes et même peut-être chez les solidaires aussi, ils voudraient...
C'est le journaliste d'expérience là, qui a vu beaucoup de...
C'est probablement...
Comment dire, de ruse.
Voilà.
Oui.
Alors, les partis pourraient dire, ben oui, il n'y a pas de problème. On l'a, voyons, on l'a adopté, tout est beau, mais on n'aura pas
vu la binette. On se revoit en février.
C'est ça, on n'aura pas vu la binette de Paul Saint-Pierre Plamondon triomphant au Salon Bleu. Alors, tu sais, ça peut être ça. J'ai hâte de voir.
Et c'est l'heure de l'analyse sportive de la période de questions. Le joueur du match, Rémi, qui est-il?
Hey, Gabriel Kelly.
Ben oui.
C'est particulier.
Mais qui est Gabriel Kelly? Il est député de quelle circonscription?
Alors, c'est le poupon de Marois Risky et de Greg Kelly. Les deux députés, donc, ils sont revenus en chambre au Salon Bleu pour siéger. Marois Risky n'était pas là la semaine dernière et ils étaient accompagnés de leur bébé au Salon Bleu. Donc, on l'a dit, tu sais, les temps ont changé. C'est rafraîchissant de voir ça.
Et Greg Kelly a même posé la question.
Oui, avec...
En tenant le bébé.
Oui, c'est ça.
Avec son espèce de
un
support.
Porte-bébé, ouais,
un porte-bébé, c'est
ça. Qui lui a permis de poser des questions à Chantal Rouleau. Des questions très pertinentes, d'ailleurs, sur le fait que, selon lui, l'État devrait aider davantage les banques alimentaires parce que les banques alimentaires ont de plus en plus de clients, de personnes qui ont besoin de leurs services en raison de l'inflation, du coût des aliments, tout ça.
Alors qu'on donne de l'argent à des députés là, pour faire face à l'inflation...
Oui.
Qui se sentent mal à l'aise, puis qui remettent ça comme Mme Setlacoué, puis comme Ruba Gazan.
Bon, Chantal Rouleau a répondu qu'il y avait 5 millions de plus pour les banques alimentaires. Là, M. Kelly a fait comme un calcul en disant pour 600 000 personnes de plus qui ont besoin. Donc, ça fait 2,52 $, je pense qu'il a dit, là, par personne. C'est pas suffisant. Bon, alors, il a fait valoir son point, mais comme tu l'as dit, c'est que c'est beau de voir que de nos jours, on peut faire ça. Il avait le bébé sur lui.
Ben oui.
On l'a vu à quelques reprises au cours des derniers
mois. Émilie Lessard-Terrien de Québec solidaire.
Exactement. Hein? Et là, ben voilà, c'était super beau. Et ce qui est particulier aussi, j'aurais voulu, par exemple, te faire entendre ça, des pleurs de bébé au Salon Bleu. J'aurais même pas été capable. Il n'a pas pleuré du tout. Alors, imagine-toi donc le bébé.
Il était silencieux, complet.
Oui. Je ne sais pas s'il trouvait la période de questions somnifère, peut-être.
Mais c'était une période de questions assez ennuyeuse.
Oui, c'était pas la plus vivante.
T'sais, c'était comme, pour reprendre nos images de hockey, là, quand les joueurs lancent la rondelle dans le coin puis essayent d'aller la chercher, puis là, ça marche pas. Puis...
Oui.
Ouf.
Alors, c'est ça. Une période de questions plutôt tranquille. Et c'est la raison pour laquelle donc, je décerne le joueur du match au poupon qui était là et qui a été très tranquille, qui a bien fait ça. Et bravo aux parents.
Ben oui. Le terme surprise du match.
Beurre de peanuts, c'est rare qu'on entend ça au Salon Bleu. Et c'est Christian Dubé qui est obligé de répondre à une aberration qui est survenue. Donc, cet employé qui a été suspendu dans un hôpital pour s'être fait une rôtie, dans le fond, avec du beurre d'arachide.
Oui.
Parce qu'elle avait faim. Écoute, avec tout ce qu'on leur demande, les heures pas possibles, puis les des temps supplémentaires obligatoires, que la personne se soit fait une rôtie pour pouvoir tenir le coup.
Ouais.
Je pense que c'est la moindre des choses. Et,
on comprend.
Il y a quelqu'un qui a fait du zèle incroyable et qui avait déterminé qu'il y avait une suspension de 3 jours pour cette personne-là, sans ça te rendre compte.
C'est un peu sévère.
Un peu pas mal.
Un peu sévère.
Un peu capoté, là.
Oui.
Je pense qu'on peut dire ça. Et donc, Christian Dubé qui est obligé de répondre à ça. Il y a eu une excuse de formuler à la personne. La suspension a été annulée. Christian Dubé a dit qu'il était intervenu, mais c'est juste que, tu sais, c'est pas normal. J'ose croire que, qu'il a, je sais pas que, comment il a pu, par exemple, envoyer un message à tous les gestionnaires pour dire quelque chose comme « je veux plus jamais revoir ça », dans un contexte où on a absolument besoin de faire venir davantage de personnel.
Oui.
Est-ce qu'on va...
Est-ce qu'on devrait promettre, au contraire, de nourrir les employés?
Ben oui, je dirais...
Ce serait une forme d'augmentation de salaire?
Ça serait pas mal.
Parce qu'il y a des lecteurs qui m'ont écrit, moi, qui m'ont dit « mais ils n'ont quand même pas d'affaire à manger la bouffe des patients? »
Ben non, sauf que là, je veux dire, pour une rôtie, c'est sûr que là, il n'y a pas... Je veux dire, tu ne vas pas priver des bénéficiaires là, de nourriture parce qu'il y a une rôtie de moins là, dans l'établissement. Personne ne va me faire croire ça.
Non.
Mais ceci étant, mais tu as raison, par exemple, que dans le cas de temps supplémentaire obligatoire, ce serait peut-être pas vilain, notamment, de dire, ça inclut, par exemple, un repas, tu sais, pour pouvoir justement tenir la route. Et parce que tu ne peux pas prévoir deux lunchs, par exemple, là, si tu ne sais pas que tu vas faire du temps supplémentaire obligatoire à la fin de ton quart de travail régulier. Bref, c'est ce que tu soulèves là est une possibilité intéressante. Mais bref, pour revenir à Christian Dubé, il n'était pas de bonne humeur, bien entendu. Et en plus, il a dû répondre à une autre aberration, c'est-à-dire que une employée qui se serait vue refuser de travailler au 8-1-1 parce qu'elle maîtrisait, semble-t-il, pas suffisamment l'anglais. Souhaitons...
Ça va contre la loi 96.
Souhaitons, M. Dubé, là, qu'il n'ait pas trop, réparer des erreurs comme celle-là dans les prochains jours, prochaines semaines, alors qu'on a besoin de toutes les paires de bras possibles.
Enfin, il y a un nouveau joueur, c'est Bernard Drinville, un nouvel ancien joueur qui a répondu à sa première question aujourd'hui.
Ben oui, parce que la semaine dernière, justement, on disait Marois Risky n'était pas au Salon Bleu. Ben, il aurait pu y avoir des questions des autres parties, mais ça n'a pas été le cas. Bernard Drinville a eu une semaine, il a été blanchi, si on veut, la semaine dernière. Il n'a pas pu se lever pour répondre à des questions, donc là, aujourd'hui, Marois Risky était là. Elle a demandé à ce qu'il parle de sa vision.
Question générale, hein? C'est rare qu'on ait des questions comme celle-là. Elle a demandé quelle est sa vision pour l'éducation au Québec.
Mais
j'avoue que j'ai rarement vu ça.
Elle avait quand même mis l'accent sur certains éléments en parlant du manque de personnel, autant pour le service de garde le midi que les chauffeurs d'autobus scolaires. On voyait dans le Journal de Montréal des gens, des jeunes là, qui reçoivent un texto, il n'y a pas de transport scolaire pour toi aujourd'hui, mon homme. C'est hallucinant, là, j'imagine, la problématique pour les parents. Puis même le stress que ça amène. Est-ce que tu aimerais ça comme jeune? Le matin, on se dépêche pour prendre l'autobus. Il n'y a pas d'autobus. Ça arrive fréquemment parce qu'il manque de chauffeurs. Bon. M. Drinville a été appelé un peu à dire, bon, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et lui, il a parlé plus précisément d'un point. Il dit que dans sa tournée des écoles, ce qu'on soulève le plus, c'est le problème de cas particuliers qui sont admis dans les classes régulières et qui font en sorte qu'on a besoin d'aide pour le professeur régulier. Il a parlé du projet pilote qui fait en sorte, par exemple, que des éducatrices de garde peuvent donner un coup de pouce dans une classe où il y a plusieurs cas particuliers. Par
Mais là, Marois Risky a répondu, c'est 100 classes sur 60 000, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça.
Il va falloir peut-être qu'on accélère l'implantation de cette mesure-là.
C'est ça. M. Drinville disait, il faut que j'attende le résultat ou la fin du projet pilote pour peut-être après ça l'étendre. Je pense que ça semble souhaitable parce qu'il disait que les commentaires étaient positifs, autant de la part des profs que des éducatrices qui allaient donner un coup de main.
Merci beaucoup, Rémi Nadeau. On se reparle demain.
Ça me fait plaisir.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts.
Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Vous écoutez Là-haut sur la colline.
Récemment, le journal a compilé une douzaine de témoignages de personnes qui n'ont pas pu être servies en français dans les hôpitaux anglophones de Montréal. On revient sur ce reportage avec Madoua Nika Cadet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée libérale de Bourassa-Sauvé, porte-parole en matière de langue française. Donc,
notamment.
Bienvenue dans nos studios. Bienvenue à l'Assemblée nationale. C'est vos premières journées comme députée.
Oui, merci. merci beaucoup.
Vous allez revenir, j'espère. Donc, mais parlons de cette affaire, l'impossibilité d'avoir du service en français dans certains hôpitaux. François Legault l'a qualifié de choquant. Est-ce que vous, ça vous a choqué?
Ben oui, tout à fait, absolument. Absolument, c'est absolument choquant que des Québécois ne puissent pas de recevoir des services essentiels dans leur langue. On le sait, les services de santé, donc le fait d'être capable de s'exprimer dans toute la complexité que ça exige là, quand on reçoit des services de santé, là, de pouvoir exprimer les mots que l'on ressent, là, les mots MEUX, d'être capable d'interagir avec des professionnels de la santé, avec un médecin, puis aussi, de s'exprimer, de s'assurer d'être compris, mais également de s'assurer que de bien comprendre le diagnostic, le cas échéant, ou de comprendre si on a à être assuré aussi par le médecin, par le professionnel de la santé, qu'on comprend bien là, tout ce qui nous explique, parfois les tenants et aboutissants, ce qui vient avec un traitement, par exemple. Donc, c'est pas juste momentané. Là, quand on se rend dans un centre hospitalier, là, de façon générale, là, quand on reçoit ce diagnostic-là, là, c'est pas juste donc, sur le coup. Là, parfois, c'est une incidence là, sur...
Pourtant, dans la communauté anglophone, ce qu'on entend surtout, c'est la crainte que la loi 96 enlève des services en anglais aux anglophones de Montréal.
Bien, je pense que là, on parle de deux choses que moi, je les qualifierais de distinctes. D'une chose, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est le droit d'être servi en français, de pouvoir recevoir des services essentiels en français, c'est fondamental.
Mais justement,
c'est ça, mais je pense que du côté de la communauté anglophone, des Québécois d'expression anglaise, donc la minorité historique, eux, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils veulent exactement la même chose. C'est que de leur côté, de la même manière qu'on vient d'exprimer puis qu'on s'entend là-dessus, là, que c'est essentiel de pouvoir s'exprimer quand on ne comprend pas quelque chose, notamment, puis particulièrement
mais,
quand on...
Mais je voyais dans vos promesses à la communauté anglophone, et ça, c'est un texte que vous avez signé, là, la position des libéraux sur la loi 96, il était écrit « Nous allons nous débarrasser des articles qui limitent l'accès aux soins de santé et aux soins et services sociaux. » Je traduis à mesure parce que ça a été publié en anglais seulement. Donc, mais où dans la loi 96 il y a des articles qui enlèvent des droits ou à la communauté anglophone d'être servie dans sa langue?
Ben deux choses. Deux choses. C'est pour ça que je disais qu'on parle donc de deux choses différentes. On a, d'une part, donc c'est ça, donc ce droit fondamental et inaliénable là, du côté de la communauté anglophone. Eux, ils ont certaines craintes de dire, si nous, notre droit, il n'est pas explicitement protégé, donc est-ce qu'on va être capable de pouvoir les recevoir si on est dans une situation de vulnérabilité? Donc ça, c'est la crainte principale du côté de la communauté anglophone.
Mais vous avez dit, on va abroger les articles de la loi 96, c'est un texte de la mi-août, qui limite l'accès des anglophones aux services sociaux et de santé, le « Repeal clauses limiting access to health and social services ». Mais de quel article? J'ai cherché, j'arrive pas à trouver.
Ah, j'ai pas le projet devant moi là, pour vous pointer l'article même, mais il y a deux choses aussi. Avec la loi 96, on le sait, il y a l'utilisation de la clause dérogatoire de façon préventive qui brime le. Par le fait même de son utilisation de façon préventive. Là, c'est ce que tout le monde s'entend là-dessus. Maintenant, c'est de savoir est-ce que c'est.
Ça, vous êtes contre? Préventive?
Oui, de façon
comme
préventive.
Comme juriste?
Comme juriste, oui, parce que je pense qu'il faut qu'on puisse tester nos lois devant les tribunaux. Tu sais, on le sait, là, quand, qu'à l'époque, quand Robert Bourassa, bien avant ma naissance, avait promulgué donc la loi sur l'affichage.
C'était 1988, l'arrêt
exactement,
Ford.
Exactement, exactement.
On parle de constitution, là.
Moi, je le sais, là. il l'avait pas utilisé de façon préventive, puis par la suite, on l'a vu, il l'a mis en œuvre, puis après ça, bon...
Mais quand est-ce que c'est préventif? C'est une question que je pose à la juriste, parce que si...
La manière dont c'était...
Les tribunaux se sont prononcés des fois depuis longtemps sur une...
La manière dont ça a été mis en œuvre, c'était justement de se dire, bien, on utilise nos clauses dérogatoires autant dans la charte fédérale que provinciale, en passant. T'sais, dans 96, on parle souvent de la charte fédérale, mais c'est aussi la charte québécoise. On utilise la clause dérogatoire aussi dans
la charte québécoise. Oui, mais la charte québécoise n'a plus tellement d'autonomie. C'est la jurisprudence fédérale détermine le sens qu'on donne.
Mais quand même, il y a quand même un sens qui est donné là, quand on utilise de façon préventive la clause dérogatoire dans nos deux chartes. Là. Donc, il y a quand même ce geste-là qui a été posé de mutatis mutandis là, en utilisant nos
Mais juste pour revenir, il n'y a pas... Donc, vous n'avez pas les articles que vous abrogeriez là, si vous preniez le pouvoir là,
nous,
dans la loi 96 pour garantir les droits anglophones.
Nous, l'objectif, c'est de s'assurer que de la même manière qu'on veut garantir ces droits-là, qui sont fondamentaux, qui sont inaliénables, puis qu'on trouve choquant quand ils ne sont pas mis en œuvre, donc de protéger...
Est-ce que la loi 96 les met en danger pour... Par la clause non-obstant, oui, c'est ça que vous
c'est
me répondez.
C'est ça, c'est ça.
OK. En 2017, vous écriviez une lettre ouverte dans Le Devoir... Vous écriviez « Cessons de nous alarmer quant aux chiffres sur la langue maternelle d'usage à la maison des Québécois ». Est-ce que c'est toujours votre position face à la langue ou ça a changé avec les indicateurs qui, selon le ministre Roberge, là, on court vers le mur, tous les indicateurs sont au rouge?
Bien, je vous dirais c'est deux choses. Puis, il y a un constat qu'on fait par rapport à la nécessité de protéger, de promouvoir la langue française, qui pour nous, là, ça, c'est un objectif, puis ça, je le mentionne dans cette lettre ouverte là, que j'écrivais quand j'étais à Washington. C'est absolument nécessaire là, qu'on puisse le faire, puis qu'on ait toujours cet objectif-là en tête comme nation. Donc, pour nous, ça, c'est fondamental. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses...
Le diable étant dans les détails.
Oui, le diable étant dans les détails, mais... Je veux le mentionner en amont parce que...
Mais est-ce qu'il y a un déclin de la langue française pour vous?
Oui, je pense qu'il y a un certain déclin de la langue française. Mais je ne pense pas que l'indicateur de la langue maternelle soit l'indicateur qu'il faut utiliser pour pouvoir décider qu'il y a un déclin. C'est vraiment une question. Puis à ce moment-là, j'étais étudiante à la maîtrise en politique publique, puis c'était vraiment comme... comme étudiant qui étudiait les différents indicateurs statistiques, je regardais cet indicateur-là, puis je me disais, il n'est pas représentatif de ce qu'on voit sur le terrain. Oui, il y a un déclin. Oui, il y a un déclin en ce moment, mais ce n'est pas à travers l'indicateur de la langue maternelle qu'on est capable de le mettre en œuvre, d'autant plus qu'à l'époque, c'était en...
Quel indicateur?
Deux choses, juste finir ma phrase ici. Là, d'autant plus, à l'époque, c'était les chiffres de Statistique Canada de 2016 qui venaient de sortir. Puis autant on voyait un déclin de la langue française comme langue maternelle sur l'île de Montréal, on le voyait aussi le déclin de la langue anglaise comme langue maternelle sur l'île de Montréal. Donc là, pour moi, tout cet indicateur-là, quand je le regardais, tout ce que ça nous montrait...
L'anglais n'est quand même pas en déclin, là.
Évidemment, pas dans le monde, mais tout ce que ça nous montrait comme indicateur, c'était le fait qu'il y avait une augmentation des populations immigrantes, qui avait
donc,
une autre langue
maternelle.
Donc,
c'est pas le bon indicateur. C'était dans vos 27 propositions, d'ailleurs.
C'est ça.
27 propositions de votre prédécesseur, Hélène David. Là. On a quand même l'impression qu'au Parti libéral, dans le caucus, la défense du français est très mal vue. Chez certaines de vos collègues. J'entendais tout à l'heure votre collègue Sona Lakoyan-Olivier, qui faisait un lien entre les lois linguistiques québécoises contraignantes puis la guerre civile. Et votre collègue député Désiré McGrath, qui soutient que la loi 96 n'a pas sa place dans une société libre et démocratique. Qu'est-ce que vous pensez de ces positions-là?
Bien, écoutez, je pense que... Je... Vous les inviterez, hein? Vous les inviterez, puis elles pourront s'exprimer sur, sur leurs propos, puis sur ce qu'elles veulent dire. Mais sur votre question par rapport à comment est-ce qu'à l'intérieur de notre caucus, on perçoit la protection puis la promotion de la langue française, c'est fondamental. C'est fondamental. Puis même quand vous lisez de Gazette, là, puis que vous lisez des gens qui sont des défenseurs des Québécois d'expression anglaise, eux-mêmes l'indiquent à quel point c'est fondamental pour eux de, mm-hmm. de préserver puis de promouvoir la langue française. Après ça, ils se battent pour leurs droits. Oui, oui. Moi, j'en ai lu des articles.
Où, il y a aussi le contraire, maintenant?
Oui, il y a aussi le contraire. Il y a aussi le contraire.
Parlons de QCGN.
Mais j'en ai lu des articles où, évidemment, certains acteurs politiques parlaient de la défense de leurs droits, mais en amont, mentionnaient à quel point c'était important pour eux de promouvoir la langue française au Québec. Puis pour eux, c'est fondamental. Puis à l'intérieur de notre caucus, c'est également...
Mais on dirait qu'il ne faut pas que ça soit ni contraignant,
mais
ni...
Mais c'est pas... Je sais pourquoi...
Je pense que ces gens-là n'auraient pas accepté les clauses scolaires de 1977. Là. Tu sais, Camille Lorrain qui se faisait traiter nazi par ces mêmes personnes-là. Même le juge Deschênes qui a parlé de...
C'était des débats qui étaient émotifs à l'époque.
Oui, c'est sûr.
Mais je pense que depuis, certainement, on a certainement trouvé un équilibre avec la Charte de la langue française, avec la loi 101 par la suite, auquel tout le monde a adhéré.
Ça n'a pas empêché le déclin donc, que vous-même vous reconnaissez.
Non, mais votre question ici, c'était de savoir quels étaient les sentiments de mes collègues par rapport à la protection et la promotion de la langue française. Puis pour nous, ça fait partie de nos valeurs. Là. C'est une valeur qui est fondamentale au sein du Parti libéral du Québec. Puis il faut toujours la défendre parce que le français sera toujours fragile. Et ça, tout le monde le reconnaît.
QCGN, Québec Community Group Networks, a dit que la loi C-13 ne devait contenir aucune mention de la Charte de la langue française, ce que le texte actuel le fait, parce que c'est une loi liberticide. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Écoutez, c'est pas une loi liberticide, ça c'est certain. Maintenant, en ce qui a trait à C-13, ben le projet est à l'étude. Là, vous l'avez vu, il devait être adopté avant les fêtes. Ben, écoute, je demanderai aux députés fédéraux ce qui se passe. Nous, on est à Québec. Mais c'est sûr que nous, on va observer ça. On va regarder ça de très près. Ils procéderont à leur étude article par article. Mais ça se passe au fédéral. On va observer ce qui se passe, c'est certain.
Mais appliquer la loi 101 aux entreprises à charte fédérale.
Absolument.
Vous êtes d'accord? Ouais, mais
ça,
là, la loi.
C'est l'une de nos 27 propositions.
C'est 13 défait un peu ça. Vous avez été conseillère d'un ministre du gouvernement Trudeau.
D'un ministre francophone, oui.
Oui, c'est ça. Pensez-vous qu'il pourrait reculer là-dessus?
Écoutez, c'est sûr que...
Le gouvernement, est-ce que vous les pressez de reculer?
Deux choses. Ben, d'une
comme
part,
porte-parole.
Comme oui, d'une part, nous, on va observer donc qu'est-ce qui se passe sur la scène fédérale, absolument. Mais de notre côté, vous avez mentionné donc l'imposition de la Charte de la langue française aux entreprises de compétences fédérales au Québec. Ça faisait partie d'une de nos 27 propositions là, que vous mentionnez. Donc, nous, c'est toujours notre position. Puis, évidemment, avec ce qu'on voit dans le projet qui est à l'étude en ce moment, dans la mouture là, qui est présentée en ce moment, on voit là, que ce serait facultatif. Puis, nous, c'est pas notre position. Notre position, donc, ce serait vraiment...
Donc, vous demandez au gouvernement fédéral de respecter la loi 101 là-dessus.
C'est une position unanime
de rendre ça optionnel.
Non,
ce qui fait la joie d'Air Canada
de l'Assemblée nationale.
Ça fait la joie d'Air Canada et du CN, entre autres.
notamment, ben nous, c'est quand on regarde, évidemment, c'est quand on regarde ce qui se passe, je pense que c'en est un exemple édifiant. Puis, Michael Rousseau, notamment, là, pour pouvoir respecter les francophones ici au Québec, ben, il va devoir continuer à apprendre le français, c'est certain.
Ben merci beaucoup pour vos réponses, puis vous reviendrez.
Oui,
puis d'autres
avec
questions,
plaisir.
J'aurais eu d'autres questions.
Avec
Malheureusement,
plaisir.
C'est tout le temps qu'on avait.
Oui.
Merci, Madouanika Cadet. Donc, on se reprend bientôt.
On se reprend bientôt.
Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.